C'est parti. Alors, je m'appelle Pierre Daeze et je suis un chercheur du CNRS à la retraite. Tout le monde ici est à la retraite. C'est une association 1901 qui n'a pas de personnel permanent, qui a sauvegardé cet instrument, qui l'a fait classer monument historique et qui le fait survivre en faisant des choses autour, en espérant qu'un jour ça devienne un vrai musée avec du personnel professionnel et ainsi de suite. Ça ne fonctionne pas encore. Il est très propre parce qu'il a été repeint, mais il ne fonctionne plus. Bon, vous avez une visite de combien de temps ?
On a trop de temps.
25 minutes ?
Non, on a le temps. 10 minutes, on a le temps.
On ne sait pas combien.
Bon. Donc, c'est de l'ordre de l'heure, j'imagine.
15 minutes, voilà. Hein? De l'ordre de l'heure, c'est parfait.
Donc c'est 10h34, vous êtes très à l'heure, félicitations.
C'est parce qu'on est très en avance en fait.
Bon, d'accord. Alors, je vous propose de commencer par la salle qui est là-bas que vous n'avez pas vue, qui est la salle de contrôle, pour que vous ayez une idée. Je fais un petit baratin général avec un peu d'histoire. Et après, on vient ici devant le monument historique, d'accord, hein. Et ce que je vais vous... Parce que ça, c'est très... je veux dire, c'est un peu abstrait, c'est un peu compliqué. Donc, si vous ne comprenez pas les mots que je prononce, vous m'arrêtez, parce que c'est pas... Je ferai comme le dictionnaire, je vous expliquerai ce que ça veut dire.
Hein? On peut prendre des photos.
Toutes les photos que vous voulez. Hein? D'accord. Et vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Et si vous voulez orienter ce que je tente de vous raconter plutôt d'un côté que d'un autre, vous n'hésitez pas
à vous demander,
à me le dire. On préfère, ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Je vais aller vérifier qu'un petit instrument que je vais vous montrer fonctionne. C'est un canon électron.
Hein? On va l'utiliser, on va jeter des électrons.
On va jeter des électrons. Vous en avez jeté sans le savoir, mais je vous expliquais. Et vérifier qu'il est bien chaud, qu'il va fonctionner le canon. Je reviens ici.
On va se tirer dessus.
Avec les
électrons. Non, on ne va pas se tirer dessus. Alors, comme il y a un autre groupe qui va interférer avec nous et que la petite machine va être occupée, je vous propose qu'on commence par ça. Il n'y a pas d'ordre pour visiter. Hein? Alors, c'est bien clair. Ceci est le monument historique. Hein? C'est le monument classé. C'est un des seuls monuments du 21e siècle. Donc, c'est comme le château de Versailles pour notre époque. Et c'est une machine.
Il a été créé en quelle année, celui-là ?
Pardon ?
Ça a été créé en quelle année, cette machine ?
Ça a fonctionné à partir des années 65. Et ça a été arrêté dans les années 2000, théoriquement.
Hein? Et elle a été en fonction combien de temps ?
Alors, des années 40, des années, par exemple, 60 à 95, 30 ans. Et 30 ans, c'est à peu près le temps pour faire des grosses machines, pour lancer une fusée, pour ce qu'on appelle les grands instruments. Ce n'est pas des choses qu'on fait dans un petit laboratoire. C'est des projets d'ensemble avec beaucoup de monde. C'est en gros un tiers de personnel administratif, un tiers de techniciens et d'ingénieurs, et un tiers de chercheurs qui sont là pour essayer de faire marcher, mais on a besoin de tous les autres. Il y a beaucoup de technologies, de nouvelles technologies, qui après retombent dans vos téléphones, partout. Hein. J'ai expliqué ça tout à l'heure. On verra même qu'on peut regarder ce qu'il voyait à l'époque. Je vous expliquerai tout à l'heure, mais voilà ce qu'il voyait à l'époque. Et maintenant, si vous faites le CERN, ce sont les machines de collision en Suisse,
le CERN, voilà,
qui au lieu de faire 21 mètres, font 21 km. D'accord ? Et ils n'ont plus ça, ils ont des écrans maintenant pour faire la même chose, mais avec ça, on comprend un peu mieux. Quand on voit l'origine des choses, quelquefois, c'est plus facile. Mais toujours.
Ils ont vu ça en cours, vous savez. C'est un collisionneur de particules qui est circulaire. Donc, là, à la place de faire 21 mètres, vous avez vu avec Madame Sianemia, à la frontière entre la France et la Suisse, il y en a un qui fait 21 km.
C'est les enfants de ce genre de machine. Et les enfants sont toujours plus grands que les parents parce qu'ils sont mieux nourris, c'est connu. Ils expriment tout leur potentiel génétique. Alors, je vais vous montrer un canon électron. Alors, un canon électron, c'est encore, c'est plus vrai complètement. C'est un truc qui lance des électrons, bien entendu. Et c'est souvent le début de tous les accélérateurs. C'est limité pour augmenter l'énergie. Parce que le but de tout ça, c'est quand même de lancer des électrons sur des, sur des noyaux d'atomes et des atomes pour comprendre ce qu'il se produit. Le souci de tout ça, c'est de comprendre ce qu'est vraiment la matière au plus intime, d'accord, c'est-à-dire vraiment les noyaux, de comprendre, par exemple, mieux comment on peut faire des bombes atomiques, d'accord, de comprendre comment on peut faire de l'énergie à la place des bombes atomiques, d'accord, et de comprendre aussi l'origine de l'univers, comment ça s'est passé. C'est l'histoire du Big Bang que vous avez entendu parler. Hein, et c'était dans des conditions de température énergie très grande qu'on ne sait pas faire de façon macroscopique, mais on peut, en prenant une particule qu'on connaît bien et en l'accélérant à l'énergie que l'on veut, la faire contre une cible et dans le détail comprendre ce qui se passe. D'accord ?
Oui. On vient de faire la petite conférence, enfin le jeu, oui, sur les quarks. C'est, oui, grâce à des machines comme ça qu'on s'est rendu compte que les protons et les neutrons étaient constitués,
bien
de
sûr,
particules.
D'accord. Et ça a commencé sans machine, ça a commencé en 1996 avec la radioactivité naturelle. Vous avez entendu parler de Becquerel, Henri Becquerel, non ?
Ouais,
c'est... Hein, type qui a mis un caillou sur une plaque photo pour en croyant que le soleil allait activer le tout. Hein, qui a découvert que sans soleil ça marchait aussi bien, donc que l'énergie sortait de cailloux inertes, ce qui viole toutes les lois de la physique qu'on avait imaginées. D'accord ? Donc quand on a compris ça, ça a été un grand émoi, et on a commencé à comprendre ce qui sortait comme énergie, et après on s'est dit, on a fait de la transmutation en enverrant cette énergie sur des autres cailloux, c'est le rêve des alchimistes du Moyen-Âge, et à ce moment-là on s'est dit, si on veut vraiment comprendre, il faut faire ce qu'on fait avec la lumière, créer soi-même sa source, bien la préparer en changeant l'énergie et étudier le changement de réaction pas à pas quand on augmente l'énergie. Donc on choisit à la fois le type de particule et son énergie. Et bien sûr, pour voir ce qui se passe, il faut mettre des détecteurs. Et à chaque fois, c'est un détecteur nouveau qu'il faut inventer. Donc il y a plusieurs sortes de détecteurs, on n'aura pas le temps. Mais si vous voulez revenir pour en savoir plus sur des jets plus précis, vous n'hésitez pas, vous reviendrez. Donc on va voir le canon électron. Alors, pardon, ça non, c'est une chambre à brouillard, c'est autre chose. C'est un autre type de détecteur. On verra en sortant. Un canon électron, vous en aviez tous dans votre famille quand le poste de télévision était gros comme ça. Ouais. Maintenant, c'est un écran plat, vous n'avez plus de canon électron. Donc c'était un objet extrêmement courant, d'accord, d'accord. Et l'ancêtre de tout ça étant le tube à rayons X, qui a été découvert en 1895 par M. Röntgen, un Allemand, d'accord, qui a permis de faire toutes les radios et qui permet encore de faire toutes les radios. Autre précaution oratoire, les accélérateurs, bon, il y a beaucoup de sortes, si vous faites accélérateur dans Wikipédia, toute l'histoire mieux que je peux vous raconter, hein, mais les trois quarts ou même les 4/5 ne servent pas à faire de la recherche, mais sont utilisés dans la pratique pour soigner les cancers, pour stériliser les pommes de terre pour pas qu'elles germent. Vous ne le savez pas, mais c'est comme ça. Hein. Eh oui, pour polymériser les fils électriques pour qu'ils soient bien solides. Donc vous ne connaissez l'accélérateur que pour la recherche, mais ça sert à des tas de choses dans la vie courante. Mais comme ça fait peur aux gens, on ne le dit pas. Par l'exemple classique que ça fait peur et qu'on ne le dit pas, c'est les imageries à résonance magnétique. Hein? Alors avant il y avait un N derrière, c'est imagerie à résonance magnétique nucléaire. Ça faisait tellement peur qu'on a enlevé le nucléaire. C'est pas grave, hein? C'est parce qu'on fait vibrer les noyaux, on ne les désintègre pas. C'était pas radioactif, mais les gens avaient peur, donc on l'a enlevé. Donc le canon à électrons qui n'est plus chez vous, on va le voir. Ah, venez, venez.
Bonjour, je suis le doctorant qui travaille avec Nicolas. Je viens installer les pancartes.
Ah, bonjour, Pierre Lèze.
Enchanté. Ah, vous avez le micro.
Mais oui, ça y est, ça fonctionne. Entrez, entrez, il faut que vos yeux s'habituent au noir. C'est peu lumineux. Mais c'est saisissant, vous allez voir. Rentrez, mettez-vous autour. Les plus petits devant, les plus grands derrière. Comme je suis tout petit, je suis devant. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Quelqu'un a une lumière avec son téléphone, il éclaire la chose là, il éclaire la chose de façon permanente, il n'entend rien, c'est donc moi qui sors mon téléphone. Ben bah, si, voilà.
Mais la lampe éclaire.
Ah non, non, mais non, mais non, mais il fait des choses très importantes.
Voilà. C'est bon, monsieur.
Voilà. Ah ben bah, voilà. Alors de quoi s'agit-il? D'une boule en verre pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et de deux bobines, c'est-à-dire c'est du fil électrique, donc on fait passer un petit courant. Le canon électron, c'est ce que vous voyez là au fond. D'accord ? C'est ce que vous aviez dans votre canon de télévision au départ du tube, à la partie la plus étroite. Et la petite lumière que l'on voit, merci, maintenant il faut que nos yeux s'habituent. Merci, on éteint les lumières.
Éteignez la lumière.
Voilà. Alors, cette petite lumière que vous voyez là, ce serait comme si vous aviez un petit filament dans une ancienne lampe qui n'est pas une LED.
Oh, c'est beau.
Hein, c'est beau, effectivement. Hein. D'accord. Donc ça, c'est un filament qui chauffe. Et de là, il est très facile d'extraire des électrons qui ont servi à chauffer le fil en mettant simplement devant une petite plaque d'aluminium et en connectant une pile pour attirer les électrons. Et il y a un petit trou dans la plaque. Et si je mets la tension entre la plaque et le filament, il sort ce qu'on voit, un petit jet bleu. Ce jet bleu, c'est le passage des électrons dans le gaz. On a d'abord pompé, on a laissé un peu de gaz dedans, et c'est donc la collision des électrons. D'accord ? Et ça révèle le passage des électrons. On ne voit pas les électrons. D'accord ? Vous avez, c'est le phénomène des décharges électriques, et ainsi de suite. Je ne peux pas rentrer là. Alors, une question qu'on nous pose souvent, surtout pour les jeunes enfants, c'est « Monsieur, vous me dites que c'est des électrons, mais je connais un truc absolument pareil, c'est les phares de mon papa, de la voiture de mon papa dans le brouillard. »
En effet.
En effet. Donc j'ai un moyen de lever le doute, je prends un aimant banal, par certains côtés. Vous savez que si vous mettez un aimant, vaut mieux éteindre pour que nos yeux s'habituent, hein, parce qu'il faut un quart d'heure, il faut un quart d'heure pour que les yeux s'habituent et qu'on voit bien dans le noir. Hein. Donc si je mets mon aimant devant un laser ou devant une lampe, il ne se passe rien. Enfin, rien que vous voyez en tout cas. Si j'approche ici, c'est extrêmement net. Voilà. Je peux faire passer les électrons où je veux dans la boule qui est vide avec un tout petit peu de gaz. Parce que si les électrons ont trop de gaz, ils s'arrêtent. Hein, d'accord ?
C'est quoi, alors, vous avez dans la main, monsieur ?
J'ai un aimant. Un aimant, j'ai dit. Alors, c'est un aimant, ça a deux côtés, ça a deux pôles. Alors, vous regardez bien ce que ça fait. Je retourne l'aimant. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est comme si vous lassiez vos chaussures de l'autre côté. D'accord ? Donc, avec un aimant, je peux savoir si les particules sont chargées. Si elles ne sont pas chargées, elles peuvent faire de la lumière, mais je ne peux pas les dévier. Et je peux savoir si elles sont positivement ou négativement chargées. Ce qui a de l'importance.
Alors, pardon ? Si la lumière bleue est sur l'aimant, ça veut dire qu'il est chargé.
Non, la lumière bleue, ça veut dire que les électrons ont cogné assez fort contre le gaz qui est résiduel qu'on a laissé dedans, pour exciter le gaz qui en retombant émet de la lumière. C'est le même phénomène que dans les tubes fluorescents que vous avez chez vous. D'accord ? Il y a une décharge électrique avec un peu de mercure. Ça fait de l'UV qui excite la fluorescence de la poudre blanche qui est autour.
C'est quoi qui tombe là ?
Donc,
c'est possible que ça explose ?
D'accord. Alors maintenant, je vais mettre du courant dans les deux bobines qui sont là, hein, qui n'ont aucune propriété particulière, sinon que leur rayon est égal à leur écartement. C'est M. Helmholtz qui a inventé ça. Et la vertu de tout ça, c'est que, merci M. Helmholtz, c'est que le champ magnétique à l'intérieur est très uniforme ici. Donc les lignes de champ magnétique se referment. Vous avez déjà fait les aimants et la limaille avec un papier. On voit les petites lignes qui se forment. Non, vous n'avez jamais fait ça ?
Pas encore.
Bon, bah, vous ferez quand vous ferez. Monsieur, en tout cas, il y a des lignes de champ magnétique, comme il y a des lignes de champ de gravitation qui vont vers la Terre, et les électrons sont guidés par ça. Alors, si je fais un champ uniforme ici, le champ électrique, il est comme ça ou comme ça, il a un sens. Hein. Comme ça, je ne sais pas. Je mets du courant dans la boule, dans les trucs, et regardez ce qui se passe. Ça se met sur un cercle parfait et je peux en maîtriser le rayon. C'est pas magnifique ? Ça fait pas envie de faire de la physique ? Et de comprendre ?
Hein,
et d'avaler quelques équations ? Si ! Alors maintenant, évidemment, composition des forces. Vous connaissez la composition des forces ?
Vive la physique !
Oui ou non ? Vous avez un pendule, j'appuie d'un côté, il fait une chose, de l'autre côté, j'appuie des deux côtés à la fois, il prend la composante des forces. Vous avez appris ça ou pas encore ?
Non, pas encore.
Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, J'ai 80 ans, donc j'ai appris toute ma vie. Alors, je reprends mon aimant et je vais ajouter à cette force qui a fait ce rond la force que j'avais avant.
Ça fait un ressort.
Ça fait la queue du cochon, oui. Je tourne de l'autre côté, vous n'avez jamais vu de cochon, c'est pour ça. Ça change de sens. Donc vous voyez bien que chaque pôle de l'aimant a une action pratiquement mais symétrique par rapport au phénomène. D'accord ? Vous savez pratiquement tout maintenant sur le canon électron et sur la façon... Donc vous voyez, si je reviens ici, en enlevant le courant dans les bobines, je retrouve mon faisceau et je vous montre que si je sais calculer le champ magnétique de mon aimant, je peux l'emmener n'importe où dans la boule. D'accord ? Conclusion, si je sais calculer ça, je peux faire une machine fermée, ne mettre qu'un tube à l'endroit où je veux, économiser de compter du vide, pouvoir mettre des aimants et tout, c'est le principe de la machine qui est derrière. Vous voyez l'intérêt ?
Vous avez compris ? Ce sont les éléments qui guident les électrons.
C'est le champ magnétique. C'est le champ magnétique qui est là-dedans, qui est très uniforme, qui courbe la trajectoire des électrons. Il y a une loi de la physique qui dit que quand un électron subit un champ magnétique, il reçoit une force perpendiculaire à la direction du champ magnétique et à sa direction propre. Donc ça fait comme ça. Oui, bien sûr.
C'est quoi là en bas là ?
Alors, en bas, c'est une boussole qui permet de voir que j'ai mis du champ magnétique dans la chose.
En bas, c'est une boussole
tout bête. J'éteins le tout, nous sortons. Gros effort de spatialisation. Je prends ça et je fais comme ça et je tourne.
Comment ça marche, hein ?
Ça va marcher.
Ça va marcher.
Vous êtes tous dehors, là ? Vous avez dans la tête, les deux bobines et le canon électro comme ça. On le regarde. J'ai mal à la gorge, je ne voudrais pas crier trop fort. Alors, on a la bobine comme ça. Bon, donc j'abandonne, puisque c'est pas plus facile. Il faut savoir se plier aux choses de la vie. De mon temps, comme on dit, il y a 80 ans, on foutait des fessées, des coups de pied au cul, on était extrêmement directifs. On a fini, et ben on va voir ce que ça donne. Je suis court, j'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants. Voilà, alors, ceci est l'ancêtre des premiers accélérateurs électrostatiques. Vous avez tous frotté un stylo. Là, j'ai mis du courant. Là, j'ai pas de courant. Un stylo de bakélite, des petits bouts de papier sont attirés par le stylo qui a été chargé. On a déséquilibré les charges dans le plastique, c'est devenu non neutre et ça attire les corps aussi bien métalliques que... Alors, ici, ça ne frotte pas, ça roule. Alors, j'espère que ça marche. Oui, ça roule. Et il faut deux matériaux différents. Ça s'appelle la triboélectricité.
Tribo,
électricité. C'est-à-dire qu'il faut choisir un couple.
Ça sent, monsieur.
Oui, c'est l'ozone. C'est de l'ozone. Je vous propose quand même de ne m'interrompre que pour me poser des questions et pas pour faire un commentaire. Parce qu'on fera ce qu'on veut, n'importe comment, je m'en fous. Hein. Je peux vous dire, je ne suis pas choqué par votre attitude. Je suis bien plutôt sympathique. Si j'avais été élevé comme vous, peut-être que j'aurais été plus heureux. Donc, quand on frotte un silo de plastique sur son pull-over,
ça donne l'électricité statique.
Voilà, comme pour les cheveux, pour tout. Mais bien sûr, on peut se poser la question de savoir c'est quoi le plus efficace ? Oh, tu peux approcher. C'est quoi le plus efficace ? Alors, si on choisit les matériaux, de la soie, du coton, n'importe quoi, et des matériaux plastiques différents, le rendement est différent. Ça s'appelle la triboélectricité. Alors là, ça roule, c'est très efficace. Et c'est tellement efficace que regardez ce qui se passe.
Wow.
Voilà. C'est pas une plaisanterie. Alors, il faut savoir que si quand je suis capable de mettre une étincelle à 1 cm, c'est qu'il y a au minimum 10 000 électrons-volts. Ouais. 10 kilos électrons-volts. Donc si je fais 3 cm, il y a 30 000 électrons-volts. D'accord ? Donc c'est vachement efficace. Et avec ça, si je fous ça avec un canon électron, j'ai des électrons qui sont accélérés à 30 kilos électrons-volts. Je peux déjà faire des merveilles pour étudier ce qui se passe. Alors, c'est très dangereux. La preuve, c'est que je vais me faire électrocuter. Alors, je mets mon doigt à la place, parce que moi, je suis à la Terre. Ça, ça, l'électricité, elle retourne simplement là où c'est le plus facile, elle coule dans la Terre. Hein. Je mets mon doigt.
Et ça fait rien.
Je trempe, mais c'est pas ce que j'ai pas, c'est parce que je suis vieux.
Vous mouillez votre doigt, monsieur.
Oh non, non, ça va. Vous voyez. Attendez. Vous pouvez le faire, c'est pas dangereux.
Ça fait rien.
C'est, non, ça picote. Ça picote.
Mais en théorie,
ça picote. Alors, ça.
Attendez.
Bon. Je vous ferai du bouche à bouche si vous voulez.
C'est une chose qu'il faut savoir.
Ça picote.
Mais monsieur.
Allez,
ça
pique. Ah. J'ai vu la
moi quand je mets la main.
Alors les grands cheveux, ça va très bien. Les grands cheveux, ça va très bien. Non, 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 ils sont. Ah bah oui, voilà, ils sont folles.
Ah ouais.
Et regarde, Brian, regarde, ça fait des étincelles, t'as vu ?
Voilà.
Et quand même plus
Bon, écoutez, en tout cas, ça marche plus. Vous ne pouvez pas dire que la science n'est pas amusante et fascinante. Je vous ai montré un canon électron et cet accélérateur qui s'appelle un Van de Graaff.
Ça, c'est trop cool, monsieur.
V-A-N, plus loin D-E, c'est comme un titre de noblesse, Graaff, G-R-2-A-2-F.
Monsieur, là, moi j'ai touché, la prof elle m'a touché, ça l'est avec
le bruit. Ben oui, c'est le conducteur. Mais alors, tout ça, je vous signale que du temps de Louis XIV, dans la cour du château, il y avait l'avénolé.
G-R-A-A-2-F.
Il y a deux F, on peut mettre deux F. Si tu fais G-R-A-F, ça va marcher quand même. Okay. Parce que oui, Pégueuillet est tolérant aux fautes d'orthographe, heureusement. Hein? D'accord ? Je vous signale que. Ce truc de conduire l'électricité dans fer en frottant dans le 15e siècle, c'était une boule de soufre qu'on faisait tourner avec une pédale comme de machine à coudre de la grand-mère et on chargeait, oui, au lieu de frotter, ouais, ça tournait. Là, ça roule encore. Hein. Et à l'époque, le grand truc, c'était de faire ça. On mettait les gardes suisses tous ensemble et le dernier sentait la décharge.
Bah, c'est ce que je fais, moi.
Alors, c'est pas nouveau.
Des vaches.
Et la personne française qui a beaucoup travaillé dessus, il faut lire l'histoire, c'est fascinant, hein, s'appelle l'abbé Nollet, N-O-2-L-E-T. C'était le grand curant de Franklin, l'Américain qui a découvert le paratonnerre. Je vous assure que l'histoire des sciences, c'est fascinant.
Bah, oui.
Comment les choses ont été trouvées, c'est fascinant. D'accord ? Est-ce que maintenant, vous êtes prêts, un peu calmés, à ce que je vous explique un peu plus comment était l'accélérateur ?
Oui.
Alors, vous allez voir un plan. On peut aller là pour voir le plan. Venez.
Ah, Bruno, bien.
Voilà, voilà le plan. Après. Écoutez, je vous ai promis qu'on irait, donc vous êtes un peu, vous n'êtes quand même pas des gamins de 2 ans. Hein, si on ira et on fera des commentaires. Voilà. Ça, c'est un style, c'est un truc, style plan du métro. D'accord ? C'est symbolique, mais ça représente absolument tout. Vous êtes actuellement ici, sur le plan. C'est comme une station de métro. D'accord ? Hein ? Le laboratoire, qui a été créé dans les années 55, avait pour objectif, alors, on savait le faire aux États-Unis, les scientifiques sont revenus après la guerre, on n'avait rien en France, si on a un accélérateur pour les militaires au CE là-haut, et ils ont demandé au général de Gaulle d'avoir un instrument pour faire de la physique fondamentale sur les accélérateurs. Et nous ne savions pas faire d'accélérateurs linéaires qui sont comme ceux-là, hein, Les circuits réalisés déjà sur un autre principe, je ne rentre pas dans Wikipédia accélérateur, on explique tout, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce premier accélérateur qui est là, qui est aussi avec une très haute tension entre le filament qui produit les électrons et la cible qu'on veut bombarder, a une limite, c'est le claquage externe. Si je continue à monter la tension, là j'ai 30 kiloélectronvolts, je peux aller jusqu'à 1 million d'électronvolts. D'accord ? En prenant des précautions, des isolants, en agrandissant le diamètre de la sphère et tout, mais ça pète toujours par l'extérieur. Il y a un vice fondamental, c'est qu'à la fin, l'énergie, elle amorce sur l'air. Donc il faut se débarrasser de ça.
Comment faire ?
Comment faire ? Alors, le principe pour s'en débarrasser, c'est de passer à des choses séquentielles, terme savant, n'est-ce pas ? Qui consiste à construire une maison sans grue, de 30 étages, en mettant un collègue à chaque étage. On construit le premier, on lance la brique, il la prend et on construit le deuxième étage. Dans l'accélérateur, qu'est-ce que l'on fait ? On commence par faire le mieux possible avec ce qu'on a comme avant de graphe, hein, et après, on est obligé de... Là, c'est continu, hein, ça coule comme du courant d'une pile. Après, on fait des paquets d'électrons, on ne fait pas continu, on pulse les paquets. Et puis, on trouve un moyen pour avoir une espèce de raquette qui pousse le paquet quand elle passe, quand il passe devant. D'accord ? Et si je le fais de façon répétitive, d'accord, je peux augmenter autant que je veux l'énergie du paquet qui passe devant moi. Tout ça se faisant toujours sous vide, car si les électrons rencontrent de l'air, ils réagissent avec l'air et ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux les emmener jusqu'à la cible finale, il y aura le plus d'énergie.
Pour
c'est clair ?
Une collision.
Pour faire un... pulsion, un pulse, hein, le principe est celui du surfeur. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'un surfeur. Il utilise le champ de gravitation terrestre. Il n'y en aura pas avec les électrons, ça va être un champ électromagnétique, mais le principe est le même. Que fait le surfeur ? Il attend une belle vague qui arrive. Quand la belle vague arrive, il monte dessus et il descend la pente de la vague et pour en profiter plus, il remonte et il redescend comme ça tout le long. D'accord ? Ce qu'il faut remarquer là-dedans, c'est qu'il va plus vite que le front de la vague. D'accord ?
Ah oui, il monte, il
descend. D'accord. Donc la vague peut porter le surfeur plus vite parce que lui descend en même temps. Donc c'est ce principe qu'on peut comprendre pour les vagues électromagnétiques. On va faire des vagues électromagnétiques. D'accord ? Et on va mettre les paquets d'électrons sur la descente de la paille. Donc il va faire vibrer une cavité comme une cavité sonore constamment et on va envoyer les paquets au bon endroit dans le temps pour qu'ils descendent toujours le long de la cavité pour augmenter. C'est imagé mais c'est à peu près ça. Alors, il n'y a pas de champ de gravitation comme pour le machin. C'est toute la vague électromagnétique qui porte le paquet d'électrons. Ça vous satisfait ?
Oui, ça me satisfait.
Ben, j'ai de la chance parce que pour faire mieux, je ne sais pas. D'accord ?
Hein ?
Pardon ?
Le bouton rouge qui est derrière vous, c'est quoi ça ?
Le bouton rouge, c'était quand il y avait des micros. Si je n'avais pas à parler, ça discuteriez. Mais on l'enlevait parce que c'était jamais sur mesure. Donc. Alors, maintenant, je reviens sur ça. Donc, on a voulu faire ici un accélérateur linéaire qui était le top du top à l'époque. Hein, et chemin faisant, dans les années 60, deux pays ont inventé une meilleure idée que d'envoyer des particules sur une cible fixe. Et vous connaissez le truc, c'est que quand il y a un accident de voiture entre une voiture et entre deux voitures, si elles ne sont pas à la même vitesse et du même poids, il y a de la collision, mais il y a quelque chose qui recule. Ça s'appelle l'énergie de recul.
C'est la gravité, non ?
Pardon ?
Non.
Ça s'appelle l'énergie de recul. C'est ce que vous avez aussi dans un canon quand vous tirez un coup de fusil. L'énergie que vous avez dans votre épaule, eh ben, elle ne sert pas à lancer la balle. Vous êtes bien d'accord ?
Donc, vous avez fait ça en cours avec l'histoire de la personne qui est sur un bateau et quand elle lance.
Voilà.
Elle lance un objet, le bateau recule un petit peu.
Voilà, voilà. C'est une très belle image, hein, et ça illustre aussi ce qu'est un photon, une particule de lumière, hein, et comment on peut interagir entre deux atomes en lançant quelque chose. Hein. Donc il y a une réaction des deux côtés. Donc je reprends. Deux pays en Italie, à Frascati et en Russie, à Moscou, des physiciens, c'était dit. C'est de l'histoire, mais c'est, je pense que ça illustre un peu la situation et pourquoi. Vous accroupissez si vous avez... Vous vous accroupissez si vous n'êtes pas bien.
David, je suis peut-être accroupi.
Bon, pour annuler l'énergie de recul, il faut avoir deux objets de la même énergie, hein, donc dans la même vitesse et de la même masse, qui se rencontrent. Donc, on peut, puisqu'on sait mettre des électrons sur une structure circulaire, d'accord ? Et puisqu'on sait faire, mais quand on grandit, on est fatigué. Hein. Moi, c'est parce que je suis vieux que je suis fatigué. Mais j'étais fatigué aussi quand j'étais jeune.
Quand on est jeune, il faut être là.
Donc, puisqu'on sait faire tourner des électrons, je vous ai montré, hein, l'idée, c'est de dire, ben, on va faire un effort technologique. Hein. On va mettre deux anneaux qui vont être en sens inverse pour se faire rencontrer les électrons. Et plus que ça, ils ont tout de suite eu la bonne idée, comme je sais créer facilement, si on peut dire, l'antiparticule de l'électron qui a la même masse, mais juste la charge inversée, si je réussis à mettre dans cet anneau des paquets d'électrons et des paquets de positrons, d'accord, je vais les faire surfer en poussant avec ma raquette électromagnétique, ils vont se mettre comme des horloges sur le même trajectoire, et les paquets vont se rencontrer
et boum, boum,
frontalement.
Boum, boum.
D'accord. Donc j'ai réglé... J'ai plus un grand accélérateur. C'est une machine, il suffit d'accélérer plusieurs fois, plusieurs tours. D'accord, hein? Pardon?
Oui, ce qui permet de...
D'accord. Alors, et voilà ce qu'il voyait à l'époque. Je vous montre ce qu'il voyait à l'époque. Alors, c'est vraiment... C'est faux, hein? Mais ça a vraiment été reconstitué, le bruit compris et les trajectoires compris sur ce qu'ils voyaient à l'époque quand des électrons rencontraient les positrons. Et j'ai dit, cocorico, cette machine a été la première au monde à avoir assez d'énergie pour envoyer un électron et un positron, voir ce qu'il en sort et s'assurer que toute la masse avait été transformée en énergie. C'est la fameuse histoire de M. Einstein, la masse et l'énergie, c'est la même chose. Alors, voilà, le E égale MC2.
Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, c'est une représentation, mais on ne peut pas l'observer. Même avec...
Alors, c'est fidèle. Le tube était en inox, comme le reste de l'accélérateur, mais ces détecteurs-là étaient comme ça. Il y avait là un appareil photographique, d'accord, qui était auto-déclenché, une technique d'avant-garde de l'époque, et qui prenait des clichés de ça. Si vous gardez chambre à bulles ou cliché de chambre à bulles, vous allez voir aussi des tas de choses comme ça, avec des trajectoires très bizarres. La chose. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez bien que ça simule que des électrons et des positrons en gros paquets, c'est très petit, on en met beaucoup, on les serre beaucoup, et de temps en temps, quand même, les deux paquets se traversent avec une rencontre frontale. C'est ce qu'on veut obtenir pour que toute l'énergie soit convertie. D'accord? Alors, ça, c'est un des types de détecteurs. Ça s'appelle des chambres à étincelles. Parce que, bien sûr, ça fait des étincelles. C'est un des principes. C'est un des principes. Est-ce que vous connaissez le compteur Geiger, qui est ce que promènent les gens pour détecter la radioactivité avec des écouteurs? Pas pour chercher les métaux sur la plage. Hein. Non. Bon, vous garderez Geiger. G-E-I-G-E-R. D'accord. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces chambres? On a mis des plaques régulièrement espacées, on pompe l'air et on met la haute tension. Et on monte la haute tension jusqu'à temps que ça s'allume comme ce qu'on a vu là-bas. Et on baisse un tout petit peu. On a fabriqué ce qu'on appelle un milieu instable. Ça s'appelle des chambres à avalanche. Parce qu'il se produit exactement la même chose que quand un skieur met son pied en haut de la montagne, il y a la neige qui a été instable, il y a 10 tonnes de neige dans la vallée. Donc on amplifie le signal, et comme le ciel est très faible, on est bien content d'avoir quelque chose. Donc même avec de l'électronique banale de l'époque, des tubes triodes, il n'y avait pas de transistor bien entendu, on pouvait obtenir des impulsions et on pouvait les matérialiser, les photographier. Pardon ?
Vous mettez combien d'atomes ?
Combien il y a des milliards dans chaque paquet ?
Ah, vous mettez un paquet d'atomes ?
Donc, oui, plusieurs paquets même. Mais dans chaque paquet, il y avait des milliards d'électrons. Ils sont tellement petits. Alors, autre précaution oratoire. Quand on commence à toucher à des domaines qui sont en dessous du micron, pratiquement la nanotechnologie et les atomes, pratiquement toutes les images, ou beaucoup d'images que l'on a dans le monde réel, qui a fait notre logique, les boules qui se rencontrent, tout ça, perdent de leur validité. Mais les gens, à force d'étudier les atomes, de les éclairer, de voir ce qui ressortait, ils ont fabriqué une mécanique adaptée à ce truc qu'on appelle la mécanique quantique. Vous parlez peut-être. La mécanique quantique, c'est jamais que de la mécanique comme la mécanique classique que vous faites à l'école, d'accord ? Non, mais non, je vous assure que c'est vrai. Avec des équations un peu différentes, il y a des rondibés comme ça, mais c'est tout à fait bouffable. Hein.
Mais avec des principes qui paraissent beaucoup moins logiques.
Ce n'est pas la même logique.
Oui, c'est pas la même logique.
Bon, et c'est ce qui est très troublant pour les gens. Petit commentaire quand même, petit commentaire qui peut vous être utile. Il ne faut pas vous étonner. Alors, je vous signale que les gens d'Asie et d'Inde n'ont aucun problème pour bouffer la mécanique quantique. Parce que leur philosophie n'est pas une philosophie de classification dans des boîtes, mais de la totalité, de l'influence, des interactions. Et pour eux, ce n'est pas un problème. Pour nous, nous avons une grande tradition d'une logique assez dualiste, c'est blanc ou c'est noir, hein, et c'est Descartes et tout le monde. Donc, en philosophie, comme on dit, pour décrire le monde, je fabrique des tiroirs et je mets les choses dans les tiroirs. Si par malheur, il y a une chose qui va dans deux tiroirs, c'est le drame. Et c'est ce qui s'est passé avec la mécanique quantique. Ça s'est passé aussi dans la classification des animaux, je vous signale. Donc, ce n'est pas propre à la mécanique quantique. Hein ? D'accord ? Donc ça, c'est une réflexion peut-être un peu abstraite, mais qui a son importance. Il ne faut pas paniquer devant les choses qu'on ne comprend pas.
Non, jamais.
Hein ? Et ça sinon peut se produire ailleurs que...
Sinon, on est foutu si on ne comprend pas.
Eh oui, oui, oui. Il faut savoir, si on ne comprend pas, il faut prendre un livre.
Hier matin, vous avez un peu paniqué.
Et Wikipédia. Bon, alors... J'arrête ça, et ces choses que vous avez vues ici... C'est les seules informations qu'avaient les physiciens pour comprendre ce qui se passe comme un électron rencontre un positron.
Donc,
un roman policier à côté, c'est une plaisanterie.
Jordan. Vous avez vu ce que ça faisait ? Et c'est à partir d'informations comme ça que les physiciens d'époque...
Voilà.
Des rayons laser dans Star Wars.
Non, allez,
pas de... il a perdu là.
Pour prendre... Oui, oui, ça va être très difficile.
Il est compliqué.
C'est compliqué.
Il doit être poète.
La science, c'est compliqué.
Oui, mais c'est compliqué, mais on peut l'expliquer. C'est toute la différence entre les croyances que l'on peut avoir, comme la religion ou la trouille ou n'importe quoi. Hein? Ici, on peut tout, on peut expliquer. Il peut y avoir des incertitudes, mais on met des barres d'erreur, on met des choses. C'est une démarche qui est très réductrice, comme on dit, mais qui a permis de faire des tas d'avancées. D'accord ? Et qui est peut-être, certains prétendent qu'on est à la limite de ce genre de choses, et que pour comprendre les trous noirs, tout ce qu'on ne comprend pas, il faudra peut-être abandonner une partie de notre méthode. Donc, il ne faut pas désespérer, vous voyez, les gens qui refusent la logique auront peut-être raison un jour. Bon, il nous reste combien de jours ? Cette machine, c'est un autre type de détecteur. Je ne vais pas avoir le temps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un détecteur ? Il est 11h12. Hein ? Qu'est-ce que c'est qu'un détecteur ? C'est un piège pour la particule que vous voulez attraper. D'accord ? La comparaison, c'est vous voulez attraper un animal dans la jungle. D'accord ? Eh bien, vous ne ferez pas le même piège pour attraper un éléphant, un lion, un lapin ou un perroquet.
À la fois, quand en voiture, on lui fait signal de part,
oui,
il ne voit pas.
D'être d'accord ? Donc, un détecteur, c'est un piège qui réagit à un type de particule. Et chaque fois, il faut en inventer un nouveau. Alors, je vais vous montrer maintenant, comme promis, la chambre à brouillard, qui s'est révélée un détecteur extraordinaire, mais qui n'a pas été fait pour ça malgré tout. Comme quoi, le monde est infiniment beau. On rentre là-dedans.
Il
On dirait qu'il pousse.
Pardon ?
On dirait qu'il fait.
C'est vivant. C'est vivant.
C'est vivant ça ?
Ben oui, tu vois, regarde. Ça vit. Mettez-vous. Rentrez, rentrez. Les plus petits devant, les plus petits devant, les plus grands derrière. On ne bouge pas la vue des autres si possible, sinon c'est pas possible. Alors, je vous explique ce truc. Ce truc, c'est quoi ? Il y a une plaque de congélo noire au fond. D'accord ? Un petit peu d'alcool isopropylique. Ce n'est pas l'alcool classique, mais c'est de l'alcool tout bête. Hein, qu'il ne faut pas boire, car c'est un poison. Et ici, c'est la température de la pièce. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'alcool condense sur l'alcool tue, mais l'alcool condense aussi quand on la met assez froide. D'accord ? Donc c'est très froid en bas. Au-dessus, il y a un petit peu d'alcool et de moins en moins. Et cet instrument a été inventé par un météorologue qui voulait comprendre comment se faisaient les nuages. Au lieu d'aller se promener à la montagne et de voir à quelle hauteur étaient les nuages et d'enregistrer la température et l'hygroscopie de la flotte, il dit, je vais chercher moi et je vais tout comprendre. Il n'a rien compris avec ça, mais on a observé que c'était un truc qui était vivant. Alors pourquoi ? C'est un milieu instable, comme ce qu'on a fait avec les plantes. D'accord ? Et c'est un peu comme les avions que l'on voit dans le ciel, par moments on voit leur traînée, on ne les voit pas tout le temps. Ce qu'on voit dans les avions, c'est la condensation des moteurs.
Et quand il y a de la pluie.
Ici, il n'y a pas de condensation qui sort de la chose. C'est simplement l'instabilité. Quand de l'énergie localisée traverse ce milieu instable, au lieu de faire une étincelle, il ionise une petite goutte d'alcool qui devient en déséquilibre, qui attire les autres gouttelettes autour d'elle et qui fait un nuage. D'accord ? Alors, si vous regardez, vous verrez qu'on voit une espèce de brouillard fluctuant sur le fond, d'accord ? Et que quand les traces disparaissent, on voit la plaque au fond. C'est bien que le brouillard a été... La trace, c'est la condensation des particules, vous voyez ? Et il y a plusieurs sortes de traces. Il y a des grosses traces, il y a des petites traces, et ça, c'est signe que ce n'est pas le même type de particules qui interagit là-dedans. D'accord ? Alors, même si on ne comprend rien, parce que ça commence toujours comme ça en science, il y a toujours un moyen. Je vous ai parlé de mettre des boîtes, et bien là, je peux tenter de mettre des boîtes, hein, et de comprendre et de voir dans la vie courante à quoi ça ressemble, à quoi ça peut me faire penser. C'est souvent en physique ce qu'on appelle des analogies. Ça ressemble à, comme tout à l'heure, la fumée qui sortait du brouillard là, dans des phares. C'est pas ça, mais il y a certainement quelque chose de commun. Et qu'est-ce qu'il y a de commun ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas commun ? Ça me permet de découvrir les vrais phénomènes que j'essaye de comprendre. Alors, si je ne sais rien à la physique, rien du tout, je me dis, ça ressemble quand même à ce que je fais quand je joue aux quilles. Si je prends un terrain et que je mets des quilles dessus, d'accord ? Et si je choisis des projectiles différents, je vais pouvoir trouver des quilles qui tombent, observer un phénomène, d'accord ? Hein ? Avec des figures très différentes suivant ce que je choisis. Les quilles sont le milieu instable. Je prends d'abord une grosse baudruche très légère, je la lance. Elle va s'arrêter avec peu de quilles, parce qu'à chaque choc, on absorbe de l'énergie. Elle va faire une trace de quilles importante et courte. Vous êtes d'accord ? À l'inverse, je prends une boule de pétanque, je la lance violemment dans le champ de quilles. Il ne va tomber que la rangée de quilles qui est très proche de la trajectoire. Ça, je vois à peu près la même chose ici, vous êtes d'accord ? Alors maintenant, le travail du scientifique, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il n'y a pas commun ? D'accord ? Hein ? Alors, je vous répète, ici, c'est l'instabilité du milieu et l'ionisation le long de la trajectoire qui fait les nuages, puisque vous le voyez quand ça disparaît. Et typiquement, ce que l'on voit là-dedans, c'est deux phénomènes, deux types de phénomènes. D'abord, la radioactivité naturelle des constituants. Je suis radioactif, vous l'êtes tous, faiblement, mais on l'est tous. Donc quand on fabrique quelque chose, eh ben, c'est un problème, ça s'appelle du bruit de fond. C'est pas ce qu'on veut voir, mais c'est inhérent à la chose. Et par exemple, au CERN ou n'importe où, quand on veut faire des détecteurs extrêmement sensibles, eh ben, on va chercher le plomb des Romains. qui a vieilli, je ne sais pas combien de temps, qui est peu radioactif pour faire le détecteur, pour ne pas être emmerdé par le bruit de fond. D'accord ? Et le deuxième qu'on peut voir, c'est les muons. C'est les rayons cosmiques qui nous arrivent de partout de l'univers, qui rencontrent l'atmosphère, c'est en gros 20 km l'atmosphère, hein, autour de la boule, hein, et qui font une réaction exactement de collision qu'on organise ici, et qui viennent, les muons sont des particules assez massives, et qui viennent là-dedans interagir avec l'alcool. D'accord ?
Donc ces muons qu'on...
Alors on voit des muons, je ne suis pas un spécialiste.
Oui, non, enfin, c'est l'interaction.
Mais on voit des muons et on voit les alphas de la radioactivité naturelle.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Alors je vous propose de m'arrêter là, d'aller dans la salle, hein, parce qu'on a terminé pratiquement. Et puis bah, de faire quelques commentaires, de répondre à vos questions si vous en avez. Alors on sort par le corridor, on tourne à gauche. C'est un compteur de Geiger géant, ça, effectivement. C'est le prix Nobel de physique de M. Charpak.
Ouais, c'est comme le micro.
On va pas là ?
Non. On ne peut pas tout voir. Alors je vous dis que je ne vous parlerai pas de tous les détecteurs, mais il y en a comme un ici qu'on a mis, qui est au fond là. Ça s'appelle l'arche cosmique, et ça justement c'est un détecteur qui est fait pour détecter les rayons cosmiques dignement. Ce n'est pas du tout un milieu instable, contrairement aux deux autres détecteurs que je vous ai montrés. C'est un détecteur qui est basé sur le fait que certains plastiques, quand ils sont traversés par de l'énergie, émettent un éclair de lumière très faible. Et on met un photomultiplicateur, un détecteur donc de lumière, et on peut comme ça, si on en met dans l'arche et en haut milieu, quand une particule traverse à la fois l'arche et le milieu, on dessine... On incrémente en bas une petite lumière. Donc ce que vous voyez, c'est que les rayons cosmiques tombent plus du haut que sur les côtés. D'accord ? Ce qui est furieusement illogique, parce que l'univers est rempli de rayons cosmiques de façon uniforme. Mais nous sommes sur la Terre, et la Terre absorbe une partie des rayons cosmiques qui viennent par l'arrière. Donc je ne vois pas un truc plat, mais je vois plus de rayons cosmiques parce que je n'en ai pas absorbé par le haut. D'accord ? Bon, un commentaire sur cette salle.
C'est la salle des contrôles.
C'est la salle de contrôle. Elle était à 300 mètres plus loin. On l'a déménagée ici parce que c'est un témoin aussi de la technologie. C'est typiquement quelque chose qui avait fonctionné dans les années, disons, 60 et 95. Tout n'est pas d'époque, mais beaucoup de choses sont d'époque. Alors, il y a des petits boutons partout. On va voir pourquoi. Et il y a ce qu'on appelle en haut un synoptique.
Moi je sais, monsieur Zécon, c'est pour détecter s'il y a un problème dans une salle.
Voilà, exactement. De même que dans une salle d'aiguillage, on voit les aiguillages et on sait lequel n'a pas fonctionné. De même que dans un truc pour lancer les fusées, il y a des petits boutons partout pour savoir si tout est parfait. Là, chaque petite boîte bleue que vous voyez, c'était un endroit où on donnait un coup de raquette au paquet d'électrons et de positrons qui passaient. Et comme il n'y avait pas d'ordinateur, il fallait qu'il y ait une commande et une observation par petit bloc bleu.
Ouais.
D'où le nombre de cadrans encore à aiguille, ce qui n'existe plus maintenant, et le petit bouton qui sert à augmenter le courant sur les aimants et la cavité accélératrice. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler des cavités accélératrices, comment on fabrique cette fameuse vague. C'est une autre histoire, simplement, je vous dis que c'est comme ça. Je vais vous montrer une autre chose qui a disparu. Alors, tout ça, bien sûr, on ne voit plus ce genre de choses.
Mais monsieur, pourquoi vous ne réparez pas les machines ?
On ne les répare pas parce que ça coûterait très très cher de le faire et qu'on fait faire ça maintenant avec ce que j'ai dans mon téléphone. Ça remplace tout ça.
En fait, les ordinateurs...
D'accord ? Hein ?
Les ordinateurs...
Tout ça a été remplacé par les ordinateurs.
Maintenant, il y a des microprocesseurs.
Alors, pourquoi on a réussi pourquoi on a réussi à comprimer comme ça dans des choses, c'est à cause du progrès de la microélectronique. Alors, voilà un instrument qui était un instrument ancien dont je me suis servi quand j'étais étudiant. Ça s'appelle un oscilloscope. C'est comme un écran de télévision. Il y a un tube de télévision à l'intérieur qu'on ne voit pas très bien, donc on ne voit pas du tout, il est blindé, qui est le fameux tube de télévision que vous avez chez vous. Et simplement, on voit dessus, on a la possibilité de voir quelle est la variation de courant de quelque chose très rapidement. On devait en avoir encore à l'école. Voilà. Alors, les vôtres sont tout modernes. Voilà ce qui remplaçait les transistors.
C'est des sortes de bougies, quoi.
C'est comme une lampe. Il y a 3 électrodes dedans, ou 5 électrodes. Et c'est ce qui permet de commander des courants très très faibles, de les amplifier, et ainsi de suite. Ça, c'est l'équivalent d'un transistor, et c'est des lampes miniatures. Les lampes des postes de radio de votre arrière-grand-père. Non, de votre grand-père. Moi, mon père avait un poste à lampe. Hein. Donc, c'était en gros comme une lampe, comme ça. Et bien sûr, il y a un bout de place. Donc, pour faire diminuer la taille des postes, on a fait ça. Mais quand on a fait le transistor, ça a été tout petit. Et maintenant, dans votre téléphone, vous avez des milliers de transistors là-dedans.
Des miniatures.
Ah oui, c'est tout petit.
Mais d'accord. Des milliers.
Et vous pouvez voir
c'est
ça.
C'est grâce à la luminosité du téléphone.
Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement, il faut être capable. Bon, tout ce que vous avez comme ordinateur est basé sur ce qu'on appelle le digital. Tout ce qu'on transporte et tout ce qu'on convertit, ça se termine avec un 0 ou un 1. Courant, pas courant. Alors, par exemple, dans votre alphabet, bah, c'est comme le morse. Vous avez vu, vous connaissez le morse. Titi-ti-ta-ta, titi-ti-ta-ta. Il y a 5 trucs pour une lettre. Ouais. Mais vous pouvez le faire avec des 0 et des 1. Ah, bah oui. A, c'est 0, B, c'est 0, 1, C, c'est 0, 0, 1, et ainsi de suite.
Ou le 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Mais non, parce que là, vous êtes limité. Si vous voulez faire que des 0 et des 1, il y a une limitation.
Ça marche.
D'accord.
0 ou 1. Et tous les ordinateurs.
Alors. Et il n'y a que ça dans mon téléphone, des 0 et des 1.
Oui.
Quand je parle et que je suis enregistré, ça se terminera par des 0 et des 1 sur le processeur que j'ai dans ma poche.
Comme je dis, un jeu vidéo, ça marche avec des 0 et des 1.
Ah,
donc, il faut tout convertir. Les images, c'est des pixels, d'accord, avec l'ordre de coordonnées et l'intensité lumineuse et la couleur de la pixel.
Ça dépend de la qualité.
Oui, alors après, non, la qualité, oui, tu peux mettre
d'accord.
sur un écran.
Mais le principe c'est le signal qui est enregistré, c'est 0 et 1 tout le temps. Des suites de 0 et 1. Ouais. Alors, avec ça, nous, on peut faire de la logique même. On peut résoudre des problèmes de logique. Ça s'appelle, alors là, vous notez, c'est intéressant, l'algèbre de Boll. B-O-O-L-E. C'est un monsieur qui a compris qu'on pouvait parler, faire de la logique avec seulement des 0 et des 1. C'est absolument génial. Et c'est ça qu'on voit maintenant plus bas. Vous voyez, l'histoire des sciences est intéressante parce que ce qui est vachement compliqué, en fait, quand on sait d'où ça sort, c'est pas tellement difficile. D'accord, hein?
Nous, on a du mal à arriver avec des 0 et des 1, on peut pas parce que ça voudrait des calculs importants. Mais
voilà. Alors ne croyez pas, désolé. Il faut bien comprendre que. Par exemple, si on s'en tient au langage, pour faire une digression, pour vous montrer qu'il ne faut pas rester bloqué sur son truc. Nous, alors, tout le monde parle, hein, toutes les émissions parlent, mais quand ils ont voulu écrire, ce qui est le problème de l'enregistrement, eh bien, ils n'ont pas choisi les mêmes systèmes. Les Égyptiens ont pris des hiéroglyphes, les Assyriens, ils ont pris autre chose, les Chinois, ils ont pris autre chose. C'est des systèmes totalement différents.
Chacun leur.
D'accord. Quand elle a voulu écrire, ce qui est le problème, hein, maintenant on écrit qu'avec des 0 et des 1 dans nos ordinateurs.
Langage informatique.
D'accord. Ah oui, vous allez faire ça pour ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai parlé comme un livre ou comme Wikipédia, mais c'est vraiment dans Wikipédia qu'il faut aller voir quand vous voulez comprendre quelque chose. C'est la première approche en science. La plus facile. Et souvent, même si l'article est un peu ascon avec des formules, à la fin, il y a des vidéos, des petits trucs. Donc, je ne saurais trop vous commander. Je suis un militant de Wikipédia. Hein. Ça a révolutionné le monde. c'est l'équivalent de l'encyclopédie au moment de la Révolution, Wikipédia. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est... Hein. Avec mon téléphone, je peux savoir à tout moment si je ne connais pas un mot, si je ne vois où je veux être, je sais pas. Donc c'est éblouissant, mais ça vient de très loin, et il va vous falloir apprendre un certain nombre de choses très basiques à l'école, peut-être, ou après, parce qu'on apprend tout le temps, moi j'apprends toujours, hein. J'apprends même plus que quand je travaillais, parce que maintenant j'apprends ce que je veux. Et quand on apprend ce qu'on veut, on apprend beaucoup plus que quand on vous apprend de force quelque chose. Donc l'avenir est devant vous, hein. Faut vite terminer l'école et avoir de quoi travailler et demander un poste, ce qui n'est pas facile, je le sais bien, d'accord. Et je vous donne ma bénédiction de grand-père, en vous souhaitant bonne chance.
Merci.
Si vous avez des questions, on peut répondre ou... sur n'importe quoi.
Situation de,
Ah, vous pouvez me mettre en situation, oui. Voilà, et puis on prend une photo, vous êtes comme le départ de la fusée. Mais je vous dis, on ne saura pas ce que c'est. Hein. Je vous ai dit, c'est inidentifiable. Ça peut être Star Trek, la SNCF, Cap Canaveral, on ne peut pas savoir. Non, c'est inerte maintenant. Vous pouvez appuyer. Pas comme des brutes, mais c'est inerte.
Réponds au téléphone.
Allez, là. Allô.
Oui, alors oui, les téléphones avaient encore des fils. Alors, je ne vous dis pas les problèmes de sécurité que ça posait pour correspondre à 300 mètres de là. Et regardez, autre chose, il y en avait un tout rouge là-bas.
Ah ben, il est pour moi.
C'est le téléphone rouge d'urgence. Vous pouvez le prendre. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre inattention.
Merci à vous, monsieur.
Merci beaucoup.
Ça ne me gêne pas.
Il parle qu'il y a des toilettes dans le...
Oui, il y a des toilettes. Il y en a là, tout de suite, ici, ou au fond du corridor, là-bas. Tout de suite, à droite, là, il y en a.
Il y en a plusieurs qui m'ont demandé.
Oui. Ben, j'aurais dû le dire.
Merci beaucoup.
J'aurais dû le dire. Voilà. Alors, sachez que vous pouvez revenir quand vous voulez. Dès que vous avez plus d'une... L'ordre de grandeur, la dizaine, on ne fait pas des visites individuelles. Sauf pour des groupes, ça peut être un groupe de profs, ça peut être un groupe de machin. On peut venir préparer avec vous sur des thèmes qui vous intéressent. Passons à six, parce que c'est immense. Hein, y a, ici, hein, on peut passer la vie à parler de tout ça. Hein. On a aussi des expériences dans des petites boîtes qu'on peut transporter sur la lumière, sur tout ça.
Parce que ça va nous permettre en cours là. Elle est prof de maths sciences, moi je suis prof d'histoire français. Et donc du coup on fait des.
Voilà.
On essaie de, d'allier justement l'histoire, la science.
Ah, oui.
Et on
très, très
toute l'année.
Donc n'hésitez pas. Ça s'appelle visite scienceaco. Visite scienceaco. C'est marqué sur les. Alors d'abord, si vous faites Sciences Co avec un tiret, je crois, dans Wikipédia, vous allez dans le web, vous allez nous trouver. Vous saurez un peu ce qu'on fait. C'est résumé ici. Voilà. Contact Sciences Co. Il y a aussi Visite Sciences Co.
D'accord, Visite Sciences Co. Très bien.
Donc vous n'hésitez pas. Même si vous ne voulez pas vous déplacer, on peut venir éventuellement préparer avec vous. Alors pour nous, c'est aussi intéressant parce que. Parler à des gens comme ça, comme on en est... Non, mais c'est vrai, c'est difficile pour nous. Donc ça nous entraîne aussi de l'autre côté. Donc l'intérêt serait partagé.
Voilà, là, c'est professionnels, des mécaniciens, c'est pas des enfants...
Non, mais j'ai bien compris.
Acquis aux sciences et tout, mais c'est important de leur ouvrir l'esprit.
Oui, bien sûr, absolument. C'est ce que j'ai tenté de faire.
De répondre à vos questions, voilà.
Alors, s'ils en parlent, si n'importe quoi, si vous voulez m'envoyer des commentaires sur la visite, ce qu'on pourrait améliorer, vous n'hésitez pas.
D'accord.
Vous écrivez à Sciences Co. J'ai fait une visite à elle.
Où se fait l'accueil?
Normalement, on va ouvrir la porte pour que les gens comprennent. Ils ont ouvert là-bas, mais à mon avis, c'est moins bien. Oui. C'est ce que j'ai sur le papier, hein. C'est ce qu'il y a sur le papier.
Oh, écoute, j'ai pas. Je sais que je dois.
Alors, bouge pas. Faut que j'éteigne quelque chose, là. C'est parce qu'on nous a demandé de nous enregistrer.
Ah oui.
C'est nouveau. C'est nouveau. Marie-Pauline a acheté ça hier, alors c'est pour te dire. Voilà, alors. J'arrête, fin de la visite.
Ah, de nous en...